Nous sommes en compagnie de Madame Marie-Aude Amiel, bonjour.
Oui, bonjour.
Et de Monsieur Itier Bonneau, bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors vous êtes candidat en binôme pour les élections départementales sur le canton d'Évron, c'est ça?
Oui.
Alors dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce qui vous motive personnellement dans cette candidature? On va commencer par vous madame.
Alors Marie-Aude Amiel, 62 ans, née à Laval. J'ai fait toutes mes études à Laval, puis après à Rennes, Sciences Éco. Et après, voulant rester en Mayenne, j'ai trouvé un travail dans la banque. Et maintenant, 62 ans, bah je commence la retraite.
D'accord.
Donc ça me laisse du temps pour faire un peu plus de choses.
Et donc votre motivation personnelle pour cette candidature?
Ah bah c'est aider, défendre et faire que le futur soit un avenir.
D'accord. Donc, Monsieur Bonneau, pour vous, donc si vous pouviez vous présenter vos motivations pour cette candidature.
Donc, Itier Bonneau, j'ai 53 ans. J'ai fait mes études à Laval en partie et une autre partie à Annecy, en Haute-Savoie. Je suis informaticien de formation. J'ai travaillé 11 ans au sein du groupe Lactalis, de 1988 à 1999. Par la suite, j'ai entrepris de monter une société d'informatique que j'ai dirigé pendant 5 ans. Ensuite, j'ai changé totalement de voie et aujourd'hui, je suis commerçant au centre-ville de Laval. J'ai une activité d'antiquité brocante, j'ai un magasin d'antiquité brocante. Et parallèlement à cette activité, j'ai continué mon activité d'informatique. Donc j'ai une double activité, antiquité brocante et informatique au sein de ce commerce.
Alors qu'est-ce qui motive votre candidature ?
Je dirais à peu près la même chose que Madame Amiel, hein, c'est-à-dire essayer de contribuer à restaurer, si possible, les valeurs, des vraies valeurs que j'estime perdues dans notre République.
Alors, pouvez-vous plus précisément expliquer vos appartenances politiques et vos soutiens, donc l'identité politique de votre candidature ? Sous quelle étiquette vous vous présentez en fait?
Je me présente sous RN. J'ai toujours été de ce côté-là pour justement qu'on ait un avenir. Prendre la Mayenne.
Puis bah, pour vous, c'est la même chose, hein, évidemment.
Moi, c'est la même chose, oui, mais en effet. Par contre, je précise qu'il y a quelques années, enfin, il y a bien longtemps maintenant, j'étais. Je faisais plus partie, on va dire, du camp RPR. Hein, constatant au fil des années, je dirais même plus des décennies, qu'en fait, les programmes RPR, PS, tout ça, en fait, on s'est aperçu que c'était exactement les mêmes programmes. Voilà, donc mes convictions étant plus fortes, j'ai rejoint le RN et maintenant plusieurs années.
Alors, les électeurs ont souvent en tête la notion des anciennes élections cantonales qui correspondent à un espace limité autour d'un chef-lieu de canton. Il y a eu des regroupements, d'après vous. Qu'est-ce que ça apporte, ces regroupements?
C'est peut-être aussi pour avoir des bâtiments en commun, puisque maintenant tout est très grand. Autant investir le moins, enfin, comment dire, que tout le monde se regroupe et participe et qu'il y ait moins de frais, quoi.
Est-ce que c'est
économique?
Vous pensez que c'est une bonne chose ou pas ou...
Je ne pense pas que ce soit une très très bonne idée en fait. Dans certains cas, oui. Par exemple, pour des grands projets communs, construction de piscines, des activités ou autres. Mais dans le cadre de la réflexion personnelle et individuelle des personnes, je pense que c'est pas bon. Ça dilue, je pense, la pensée des tout petits cantons au sein de toute cette agglomération justement de cantons.
Par exemple. Pour les communautés de communes, c'est des choses aussi qui ont pu être reprochées, les gros rassemblements de communautés de communes, qui fait que ça éloigne peut-être un peu les gens par rapport à leurs élus, en fait.
Tout à fait.
Ouais. Les élections départementales visent à définir une politique à l'échelle départementale sur des compétences particulières. Si vous êtes élu, quelle sera votre priorité?
Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est la prise en charge... des migrants, de certains migrants, notamment des mineurs isolés, hein, qui sont de plus en plus nombreux, Nous, on le constate surtout dans la ville de Laval. Hein, ils ne sont pas du tout pris en charge. Ça a un coût, bien sûr, très fort pour le département, qui est de l'ordre, faut compter en gros entre 40 et 50 000 euros par an par mineur isolé, hein, à la charge du département. Et la prise en charge, oui, évidemment, parce que on s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, toutes ces personnes, hélas, errent dans la rue sans but, et la plupart du temps, dans de mauvaises conditions d'hygiène. Et puis on sait bien ce qui se passe à partir du moment où vous êtes amené à traîner dans la rue, les problèmes d'incivilité, de drogue et d'alcool, hélas, et qui derrière génèrent souvent des comportements inadaptés, pour dire... Donc oui, une des priorités, parmi d'autres, ce serait d'améliorer la prise en charge des mineurs isolés, qui posent de plus en plus de problèmes.
Pour vous, madame ?
Ils sont multipliés par 10 en 6 ans, même pas. Ils étaient 4 000 par an en France, ils sont passés à 40 000. Après, ça peut encore augmenter. S'ils préviennent leurs amis en disant « venez, venez », 50 000 euros par an, c'est beaucoup plus que le problème. Enfin, comment dire, on s'attaque maintenant au problème des retraités, alors qu'en fait, il y a toutes ces choses-là qui nous coûtent très cher. Donc, moi, je suis prioritaire pour les gens du département. Et c'est vrai que d'un point de vue social, c'est le premier budget, hein, mais quand même...
Quels sont les domaines sur lesquels vous voudriez intervenir en continuité ou en rupture avec la politique menée par la majorité actuelle ? Donc, ça peut être en termes de solidarité, d'action sociale ou de cohésion territoriale.
Disons que pour en revenir au problème migratoire, il y a quelque chose sur lequel on reviendra de toute façon, c'est le rétablissement des contrôles aux frontières. Ça, c'est indispensable. Non pas qu'il ne faille plus d'immigration, on sait bien que c'est impossible, hein, mais il faut une immigration contrôlée, et aujourd'hui, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. On a l'impression qu'il y a une volonté, masquée ou pas, je ne sais pas, de laisser sans fin ce phénomène d'immigration. Bon. Et puis... Déjà, si on rétablissait le contrôle, en mettant en place un vrai contrôle à nos frontières, commençons par ça.
Il faut contrôler, hein, il faut démanteler les réseaux de mafieux passeurs aussi.
Les collèges dépendent du département, que faudrait-il faire selon vous dans les 6 prochaines années pour améliorer ou changer les choses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre?
On restaure leurs bâtiments, des outils informatiques et tout ça, et on s'occupe des transports et de la cantine aussi. Donc, pour la cantine, acheter plus mayonnais, hein, parce que Laval ne prend que 20% au département de nourriture. Quoi.
C'est pas suffisant, ouais. De ce côté-là, il faut faire un effort, ouais, oui. Selon vous. Oui. Et pour vous, monsieur, les 6 prochaines années par rapport au collège, qu'on pourrait faire
Je pense que en dehors, oui, en effet, de la restauration des biens matériels, toujours pareil, je pense qu'il serait intéressant d'instaurer aux futurs bénéficiaires du droit d'asile, j'en reviens toujours plus ou moins à la même chose, puisqu'il y en a certains qui en bénéficient et donc qui sont scolarisés, de leur faire comprendre véritablement ce qu'est la République. Il y a dans les années 80, vous me direz, ça fait un peu loin, tous les jours on avait une petite phrase de morale, il faudrait revenir à des valeurs un petit peu comme ça. Enfin, leur apprendre véritablement ce qu'est la France. Et aussi ce qu'est la République française, puisque c'est vrai qu'on a plus tendance aujourd'hui à mettre en avant la République française que la France. Mais bon, l'un ne va pas sans l'autre, de toute façon.
Alors dans le domaine de l'aménagement et des transports, entretenir, investir, quelles actions en faveur de l'espace rural ?
Bon, on envisage de repasser certains secteurs routiers de 80 à 90 km/h. Non pas que le passage à 80 ne soit pas intéressant, mais dans certains cas, c'est pratiquement inexploitable. Si vous êtes à 80 km/h, vous passez votre temps à vous faire doubler par des camions. Ou autre. Donc voilà. On pense que le mieux est de repasser dans certains secteurs à 90 et moduler, c'est-à-dire pourquoi pas. Il y a des endroits où d'ailleurs le 80 km/h ne se justifie même pas, ce serait peut-être même plutôt 70. Voilà, il faut adapter la vitesse aux circonstances.
Pour vous, madame ?
Ben oui, c'est ça. Hein, c'est... Sur un axe droit, vous roulez à 84 et vous vous faites doubler par les taxis, par toutes les voitures. Et... Donc. Mettre partout 90, sauf dans les virages, mettre du 70.
Il y a déjà certaines routes, alors peut-être pas en Mayenne, peut-être moins qu'en Sarthe, mais c'est vrai qu'en Sarthe aussi, on a remis pas mal de routes à 90 déjà.
Chez nous, il n'y a que 230 et quelques kilomètres, 228 kilomètres qui ont été remis sur les 3600.
Ah oui, d'accord. Oui. Hein,
ça ne fait pas beaucoup.
Pas suffisant peut-être. Non. Alors, pour
alors
vous,
que deux personnes sur trois vont travailler en voiture.
Oui, bien
Donc,
sûr.
Donc tous les jours, c'est... Et quand on a un axe droit et qu'on voit personne, je vois pas pourquoi on ralentit comme ça.
D'ailleurs, donc voilà, pour vous, ce serait d'augmenter cette...
D'ailleurs, il y aurait des radars partout, tout le monde se ferait prendre. Parce que personne ne respecte partout.
Alors, le département a la compétence culturelle également. C'est un secteur qui a beaucoup souffert dans le contexte Covid. Quelles seraient les priorités selon vous pour aider la culture, enfin, voilà.
Déjà, les musées à remettre en route. Et puis la culture, bah, c'est toutes les réunions. Et puis les aider, parce qu'ils n'ont pas eu de fonds à rentrer hein, dans les années passées. Là.
Le secteur associatif aussi, qui a beaucoup été touché.
Oui.
Par le non-événement, on va dire. Ils n'ont pas pu être organisés.
Comme les foins de la rue et tout ça. C'est...
Festival.
Ouais.
Monsieur ?
Bah, écoutez, oui, favoriser la culture, c'est vaste. Hein, les musées, les cinémas qui ont été extrêmement touchés. Je pense surtout à eux, parce que quand on parle de culture aujourd'hui, surtout pour la jeunesse, hein, c'est plus vers là qui se tourne. Hein, je pense que c'est plus le théâtre et le cinéma. Donc oui, en effet, il faut réfléchir à aider fortement ces secteurs d'activité.
On voit par exemple, il y a un pass culturel là, qui a été mis en place de 300 euros pour les jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une bonne chose ?
Je pense que c'est
on peut faire autre chose, différemment ?
On aurait pu faire autrement. Autrement, parce que ça fait un peu trop pro-électoral pour avoir ouais. Le vote dès 18 ans. Parce que 300 euros, ça rime à quoi ? Vaut mieux aider les grandes fêtes, enfin les grands spectacles. Et y va qui y veut.
Au niveau des désertifications rurales aussi, de nos villages, de nos villes, quelle solution pourrait peut-être apporter aussi pour ça ? Est-ce que vous avez des idées ? Parce que c'est le problème de chaque ville, quel que soit le département. Les villages qui se vident, les jeunes qui s'en vont justement dans les grandes villes pour étudier et qui ne reviennent pas. Quelles pourraient être les mesures, par exemple, qu'on pourrait...
Déjà, avec le télétravail, on doit pouvoir évoluer.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'il y a beaucoup de Parisiens qui quittent Paris pour aller vivre en province. Hein, même s'il faut qu'ils aillent une fois par semaine à Paris.
Ouais,
beaucoup qui habitent en province.
Hein, ouais, cette nouvelle façon de travailler pourrait être justement... un départ pour essayer de redynamiser justement toutes les petites communes. Voilà.
C'est quelque chose qu'on voit ici à Sillé. On a
oui.
20-30 maisons qui sont vendues là dans l'année alors qu'il y avait beaucoup de difficultés à les vendre.
Ouais.
Et là, c'est vrai que c'est...
Ça repart et c'est un meilleur style de vie quoi, quand même d'être en campagne.
C'est-à-dire qu'on ne doit pas vivre la Covid de la même façon en banlieue que dans nos régions.
Tout à fait. Ouais.
Alors, on va bientôt conclure. Je vais vous laisser une minute chacun, ou un peu plus, évidemment, pour dire pourquoi les électrices et les électeurs devraient se tourner vers vous pour ce premier tour.
Ben écoutez, Je pense franchement, aujourd'hui, si on regarde en globalité, hein, ça fait quand même 40 ans, en gros, 40 ans qu'on est toujours avec les mêmes. Hein, un coup, alors avant, c'était pas LR, les LR ou LREM, hein, c'était RPR, UDF, PS, tout ça. Mais ça fait 40 ans que ça dure. Hein, on a eu voilà, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, maintenant Emmanuel Macron. Le Rassemblement national n'a jamais eu la chance de pouvoir diriger une région ou diriger un pays ou même avoir des conseillers départementaux. Et je pense qu'aujourd'hui, il a toute sa place et il est grand temps d'essayer et de lui faire confiance.
Ah, juste pour ajouter, vous pensez qu'on est sorti de cette diabolisation un peu du Rassemblement national ?
Un peu quand même,
oui.
Oui. Je pense qu'au sein du Rassemblement national, vous avez des gens comme vous et moi, hein, de tous bords, de tous milieux, de toute sensibilité. Donc, les gens du Rassemblement national sont des gens tout à fait normaux.
Je n'ai pas dit le contraire.
Et tout à fait sympa.
Bien sûr. Madame ?
Eh bien oui, parce qu'il y a beaucoup de villes maintenant où on ne peut plus habiter. Donc ça commence à faire comprendre aux gens qu'il faut défendre la France, défendre les citoyens.
Qu'est-ce que vous entendez par où on ne peut plus habiter ? Pour quel problème ?
Le problème, c'est que la vie n'est plus agréable. Moi, j'ai ma belle-mère, elle était à Créteil, on n'a pas pu la laisser là-bas, c'était trop... On ne pouvait plus sortir.
Au niveau de la sécurité, vous voulez dire ?
Sécurité, le bruit la nuit. Enfin,
D'accord. Alors, avant de conclure, est-ce que vous voulez rajouter des choses que vous aimeriez aborder, des choses que vous n'avez pas pu aborder que...
D'une façon plus générale, si un sujet qu'on n'a pas abordé, mais qui est plus national, ce serait... De conserver en France notre industrie nucléaire. On a la chance d'avoir encore cette industrie qui est la meilleure industrie nucléaire au monde. Hein, on a cette chance-là. Et je trouverais stupide de faire comme en Allemagne, de reconstruire des usines à charbon. Ça n'a aucun sens. C'est du bon sens aujourd'hui que de conserver notre industrie nucléaire, hein, qui génère des emplois et qui génère aussi une énergie totalement décarbonée.
On parle beaucoup des éoliennes.
Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que les éoliennes, non, nous n'y sommes pas pour. Sans rentrer dans le détail. Hein, voilà.
D'accord. Et vous, madame, est-ce qu'il y a un sujet ?
Les éoliennes saccagent le paysage. Hein.
Donc c'est pas une bonne chose, selon vous, qu'il y en ait trop ou...
Ah bah non. Et puis en plus, ce sera l'Espagne qui viendrait les entretenir. Ça durerait 50 ans. Et après, qui est-ce qui les démolira ? Qui est-ce qui est en train de... C'est pas du tout écologiste. Une éolienne.
D'accord, très bien. Est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose ou ça ira pour vous ? On a parlé de tous les sujets que vous vouliez aborder ou...
Oui, je pense qu'on en a fait le tour. Voilà.
D'accord, donc merci à vous. Nous avons reçu Marie-Aude Amiel et M. Itier Bonneau, donc candidat aux élections départementales sur le canton d'Évron, donc sous l'étiquette Rassemblement National. Et pour conclure, pour les auditeurs et les auditrices, quel que soit votre choix, surtout, allez voter.